Merci de prendre place. Nous nous sommes arrêtés dimanche dernier dans notre série sur Joseph, après que Pharaon ait élevé Joseph à la deuxième plus haute place du royaume. Joseph a non seulement été libéré de prison, mais il a reçu la responsabilité, la charge de mettre en œuvre le plan sage qu'il avait lui-même suggéré à Pharaon après l'interprétation de ses deux rêves. Ce plan consistait à faire des provisions pendant les 7 années d'abondance que Dieu allait permettre en Égypte en vue des 7 années qui suivraient et qui seraient des années de grande famine. Et c'est ainsi que Joseph se retrouve intendant de toute l'Égypte. Il a alors 30 ans, et pour compléter cette ascension fulgurante et son égyptianisation, Pharaon lui donne pour épouse une femme égyptienne. On a longuement discuté là-dessus mercredi dernier en étude biblique, mais je n'entre pas dans le sujet maintenant. Je vous propose de lire la suite du récit. Dès que j'aurai le contrôle du PowerPoint. Voilà. Je démarre au chapitre 41, verset 47. Pendant les 7 années d'abondance, le pays travailla à plein. Joseph rassembla tous les vivres de ces 7 années en Égypte. Il plaça les vivres dans les villes, à l'intérieur de chaque ville, les vivres de la campagne environnante. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. La quantité en était si considérable qu'on cessa de compter parce que c'était impossible. Avant la première année de famine, 2 fils naquirent de Joseph, ceux que lui donna Asénette, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela le premier-né du nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il appela le second du nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Décidément, ça va venir. Les 7 années d'abondance qu'il y avait eu en Égypte s'achevèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Il y avait la famine dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte fut aussi affamée, le peuple cria vers le Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à toute l'Égypte, « Allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du grain à l'Égypte. La famine était forte en Égypte. De toute la terre, on venait en Égypte pour acheter du grain auprès de Joseph, car la famine était forte sur toute la terre. Nous nous arrêtons là pour l'instant dans notre lecture. Comme annoncé par Dieu, les récoltes des années suivantes sont abondantes, et le pays sous la direction de Joseph fait des provisions à l'intérieur de chaque ville. Des provisions importantes, dit le texte, comme le sable de la mer, qui ajoute ensuite, la quantité en était si considérable qu'on cessa de compter, parce que c'était impossible. Verset 49. Et c'est pendant ces 7 années d'abondance que vont naître 2 fils à Joseph. Il va nommer le premier Manassé et le second Éphraïm. Nous notons que ce sont des noms hébreux qui indiquent que bien que Joseph soit devenu entre guillemets égyptien, il n'a pas renié ses racines. Et bien évidemment, il n'a pas renié la foi de ses pères. Le nom du premier fils, Manassé, se rapproche de l'expression hébraïque « m'a fait oublier ». Et Joseph donne ce nom à son premier fils, dit-il, j'ouvre les guillemets, « car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père », verset 51. Cette naissance est manifestement pour Joseph une guérison, un baume, un cap qui est franchi. Elle ouvre pour lui de nouveaux horizons. Elle est pour lui le signe de la consolation de Dieu. Car Dieu m'a fait oublier. Chers amis, il y a des choses que Dieu nous fait oublier. Il arrive que nous voyons clairement la main de Dieu dans notre vie, dans nos circonstances, et elle n'est peut-être jamais aussi évidente que dans les délivrances et les bénédictions que Dieu nous accorde. Et nous aussi, nous pouvons parfois dire « Dieu m'a fait oublier ». Dieu m'a consolé, Dieu m'a guéri, Dieu a mis du baume sur mon cœur. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que ces choses que Dieu fait pour nous n'excluent jamais ce que nous devons faire nous-mêmes. Autrement dit, la souveraineté de Dieu dont nous avons beaucoup parlé dimanche dernier, et aussi en étude biblique mercredi soir, ne nous déresponsabilise jamais. La souveraineté de Dieu ne nous infantilise pas. La souveraineté de Dieu ne nous déshumanise pas. Oui, Dieu fait. Oui, Dieu fait pour nous. Mais nous devons aussi toujours faire notre part. Quelle était la part de Joseph ? Dieu l'avait fait oublier, mais encore fallait-il que Joseph veuille tourner la page. Encore fallait-il que Joseph veuille oublier. Dieu ne nous force jamais à tourner les pages de notre vie. Parfois, Dieu nous fait oublier. Parfois, il nous bénit pour que nous puissions avancer. Mais nous continuons à nourrir de la rancune en nous. Nous continuons à nourrir en nous un désir de vengeance, de représailles. Nous continuons peut-être à nourrir de la haine au fond de notre cœur. Oui, Dieu a fait oublier Joseph, toute sa peine et toute la maison de son père. Mais Joseph a choisi lui aussi de tourner la page. Et nous verrons cela un peu plus tard dans le message au moment des retrouvailles avec son frère, avec ses frères. Le nom du deuxième fils de Joseph, Éphraïm, se rapproche quant à lui de l'expression « m'a rendu fécond ». Et Joseph donne ce nom à son deuxième fils car dit-il, j'ouvre les guillemets, « Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction », verset 52. C'est donc le temps de l'abondance pour les récoltes, et c'est le temps de l'abondance dans la vie de Joseph. Après les 7 années d'abondance arrivent, comme annoncé, les 7 années de famine. Versets 53 et 54, les 7 années d'abondance qu'il y avait eu en Égypte s'achevèrent, et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Il y avait la famine dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Plusieurs choses sont à noter dans ces versets et dans ceux qui suivent. Premièrement, la parole de Dieu s'est accomplie. Deuxièmement, la famine annoncée était non seulement réelle, mais elle était forte, sévère. C'est ce que nous lisons au verset 57. Troisièmement, malgré cette famine, les Égyptiens avaient du pain, verset 54. Et quand leurs réserves personnelles se sont épuisées, ont été épuisées, ils sont allés trouver Joseph, qui a ouvert pour eux les réserves du pays et leur a vendu du grain, verset 56. Quatrième remarque, la famine ne touchait pas que le pays d'Égypte. Le texte dit tous les pays, il est même question de toute la terre. Et il faut comprendre par là, bien évidemment, tous les pays connus d'alors, le monde connu d'alors, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Cinquièmement, on venait en Égypte de toute la terre pour acheter du grain en Égypte. Et nous savons que l'Égypte a, pendant de longs millénaires, été le grenier à grains de cette région. Et en particulier le grenier à grains pour Canaan. Souvenez-vous d'Abraham, chapitre 12 de ce même livre de la Genèse, qui était déjà descendu en Égypte à cause de la famine. Tout est maintenant prêt pour la suite de notre histoire. Et nous reprenons notre lecture au début du chapitre 42. Jacob vit qu'il y avait du grain en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ?» Il dit, « J'apprends qu'il y a du grain en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-en là-bas. Ainsi nous resterons en vie. Nous ne mourrons pas. » 10 des frères de Joseph descendirent acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec eux, de peur, disait-il, qu'il ne lui arrive un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du grain au milieu de tous ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine en Canaan. C'est à ce stade du récit que l'auteur revient au pays de Canaan, revient chez Jacob et les siens. Et nous constatons que Jacob et les siens souffrent eux aussi de la famine. Et voilà que Jacob apprend qu'il y a profusion de réserves en Égypte. Et c'est ainsi qu'il décide d'envoyer ses fils, 10 de ses fils, acheter du blé en Égypte. Le voyage sera long et périlleux. C'est la raison pour laquelle Benjamin ne partira pas avec le reste de la famille. Jacob a peur à l'évidence qu'il arrive un accident, un malheur à Benjamin. Le souvenir de la tragédie de la disparition de Joseph est à l'évidence encore très présent à l'esprit de Jacob. Benjamin est tout ce qui rattache encore Jacob à Rachel, son épouse bien-aimée, sa préférée, et à Joseph, leur fils, frère de Benjamin, disparu. Et les frères de Joseph se mettent donc en route sans Benjamin, qui reste avec son père. Et après un long périple dont le récit biblique ne dit rien, les frères de Joseph arrivent en Égypte au milieu de la foule, apparemment nombreuse, de tous ceux qui venaient en Égypte pour acheter du grain. Aller dans un autre pays pour trouver de quoi survivre n'est pas une problématique nouvelle. Ça a toujours existé. L'histoire des hommes a toujours été marquée par ces flux migratoires de celles et ceux qui cherchent à survivre. Nous poursuivons la lecture de notre récit. Joseph était donc le gouverneur du pays. C'est lui qui faisait vendre du grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur dit avec dureté, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « De Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui dirent, « Non, mon Seigneur, nous sommes venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous sommes tes serviteurs. Nous ne sommes pas des espions. » Il leur dit, « C'est faux. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme en Canaan. Le plus petit est avec notre père aujourd'hui, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph reprit, « Je vous l'ai dit, vous êtes des espions. Voici l'épreuve que vous subirez. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère. Vous autres, vous irez en prison. On mettra ainsi vos paroles à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie de Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste prisonnier dans la maison d'arrêt, vous autres partez, emportez du grain pour vos maisons à cause de la famine, et ramenez-moi votre petit frère. Ainsi vos paroles seront confirmées, et vous ne mourrez pas. » Ils s'exécutèrent, tout en se disant l'un à l'autre, « Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. » Ruben leur dit, « Ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre cet enfant ? Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leurs yeux. Terminons avec ces derniers versets. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs récipients, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. C'est là ce qu'il fit pour eux. Ils chargèrent leurs grains sur leurs ânes et s'en allèrent. Au campement, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, et il vit son argent à l'ouverture de sa besace. Il dit à son frère, « Mon argent m'a été rendu, il est encore dans ma besace. » Alors le cœur leur manqua. Ils se mirent à trembler et se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» C'est devant Joseph qu'arrivent ses frères. Nous l'avons vu au verset 6. Un hasard ? Un concours de circonstances ? Rien de tout cela si nous croyons à la souveraineté de Dieu. Dieu est à l'œuvre en train d'accomplir son plan. Joseph, à l'évidence, est au cœur de l'action. Il ne fait pas partie de ces responsables qui gèrent leurs affaires depuis leur bureau. Il est sur le terrain, au cœur des besoins, au cœur de l'action. Peut-être avait-il décidé de s'occuper personnellement de l'accueil sensible de tous ces étrangers qui venaient acheter du grain en Égypte. Peut-être aussi était-il là car il espérait qu'un jour ses frères, poussés par la famine, viendraient en Égypte pour acheter du blé. Qu'il l'ait attendu ou pas, ce jour est maintenant là. Les frères de Joseph se présentent devant lui. Quel choc ça a dû être pour Joseph de voir ses frères arriver. Après toutes ces années, après tout ce qu'il avait enduré, à cause d'eux, ils sont là, devant lui, sans le reconnaître. Joseph est un haut dignitaire, très certainement entouré d'une cour, entouré de gardes, certainement qu'il en impose. Leur vie est entre les mains de ce personnage puissant. Et c'est tout naturellement qu'ils se prosternent devant lui. En voyant ses frères se prosterner devant lui, Joseph repense aux rêves qu'il a fait dans sa jeunesse. les rêves où il voyait sa famille se prosterner devant lui. Des rêves qui lui avaient attiré des ennuis, de gros ennuis même, qui avaient attisé la haine et la jalousie de ses frères à son égard. Et voilà que ses rêves se réalisent après toutes ces années. Si Joseph ne l'a pas encore compris, il est à deux doigts de comprendre que non seulement Dieu est avec lui, nous l'avons beaucoup souligné dans les volets précédents, mais qu'en plus, Dieu dirige sa vie pour accomplir sa volonté. Au chapitre 45, c'est-à-dire dans quelques chapitres, nous pouvons lire les versets suivants. « Je vous en prie, c'est Joseph qui parle à leurs frères, au moment où il se fait connaître à eux. Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu, dit Joseph. Oui, Dieu dirige la vie de Joseph pour accomplir son plan et pour sauver son peuple. Mais pour l'heure, les frères de Joseph sont là devant lui et ils ne le reconnaissent pas. Mais comment cela est-il possible que des frères ne se reconnaissent pas ? Il y a plusieurs éléments d'explication à cela. Premièrement, nous l'avons lu, il le croit mort. Quand il parle de la famille, il parle de celui qui n'est plus. Et puis, un peu plus loin dans le récit, nous l'avons lu, Ruben va parler de ce qui leur arrive comme le signe que le sang de Joseph leur est redemandé, ou leur est demandé par Dieu. Ensuite, Joseph a bien évidemment beaucoup changé. Il n'était qu'un jeune garçon d'environ 17 ans à l'époque où ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a aujourd'hui environ 40 ans. Une bonne vingtaine d'années se sont écoulées depuis. Joseph a vieilli. Il a changé physiquement. Il ne porte pas la barbe comme les Hébreux, mais il est rasé de près à la mode égyptienne. Peut-être même porte-t-il du maquillage autour des yeux. Et puis il y a tout le décorum, les habits, le contexte. Tout cela devait bien impressionner ces bergers, ces simples bergers venus de Canaan qui sans doute n'osaient même pas porter leur regard sur lui. Joseph, lui, reconnaît ses frères. C'étaient déjà des adultes au moment où il a été vendu par eux. Et leur apparence physique, leur apparence vestimentaire n'a sans doute pas beaucoup changé. Mais de manière assez surprenante, Joseph ne se dévoile pas à ses frères. Alors nous connaissons l'histoire et nous trouvons ça normal. Sauf que, on aurait quand même pu imaginer que les choses se passent autrement. Au verset 7, nous lisons qu'il se comporte à leur égard comme un inconnu. Et puis il fait tout pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Il fait tout pour ne pas se trahir. Nous avons vu à la fin du texte qu'il y a un interprète. Ça veut dire que Joseph parle en égyptien. Tout ça fait que les cartes sont brouillées. Lui reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Il s'adresse à eux. Et au verset 7, nous lisons qu'il s'adresse à eux avec dureté, qu'il leur parle et puis qu'il les questionne sur leur origine. « D'où venez-vous » leur demande-t-il. Cette dureté est en réalité une dureté de façade. Les larmes de Joseph au verset 24 en témoignent. Mais Joseph ne se contente pas de les questionner. Il va les accuser. De quoi ? D'espionnage. Et il va le faire à 4 reprises. Nous l'avons vu dans le texte, verset 9, verset 12 et puis encore, verset 14, verset 16. « Vous êtes des espions, dit-il, vous êtes venus repérer les points faibles du pays. » La question qui s'impose ici est celle-ci. Mais pourquoi ? Pourquoi Joseph agit-il ainsi ? Pourquoi ne se dévoile-t-il pas à ses frères ? Quel est son objectif ? Que recherche-t-il ? Pourquoi traite-t-il ses frères ainsi ? Est-ce le début de sa vengeance ? Est-ce le début d'une vengeance longuement mûrie ? Joseph a-t-il rêvé pendant toutes ces années de ce jour où il pourrait enfin leur rendre la monnaie de leurs pièces ? La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. Ça tombe bien, parce que depuis le temps, le plat a eu le temps de bien refroidir. Cette compréhension des choses est somme toute assez humaine et pourrait être la bonne si nous ne connaissions pas la suite de l'histoire, si nous ne savions pas que Dieu est aux commandes. Non, Joseph n'est pas dans une démarche de vengeance. Il aurait été plus que facile pour lui, à ce stade, de les envoyer en prison à jamais. Il n'avait de compte à rendre à personne, si ce n'est à Pharaon qui ne s'y serait pas opposé. Ça aurait été très facile pour lui de les exécuter, d'un simple mot, de les faire exécuter. Ça aurait été pour un homme de son influence, dans le contexte de l'époque, une formalité. Mais nous comprenons par les questions de Joseph qu'il veut avant tout revoir Benjamin, son petit frère, et qu'il veut le faire venir auprès de lui. Mais il y a une inconnue de taille pour Joseph à ce stade. C'est la disposition de ses frères à l'égard de Benjamin. Le traitent-ils comme ils ont traité Joseph ? Ses frères ont-ils changé ou pas ? Sont-ils toujours les mêmes ? Joseph doit s'assurer de leur sincérité. Il doit s'assurer que les choses ont changé. Il doit s'assurer de leur fiabilité. Et puis, il y a le plan de Dieu, celui de faire venir Jacob et sa famille, c'est-à-dire Israël. Vous savez que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. C'était dans le plan de Dieu de faire venir Israël en Égypte pour qu'il devienne une grande nation, comme Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham. Et la venue de Benjamin est la première étape dans la réalisation de ce plan, de cette venue en Égypte. Joseph en est-il conscient ? Pleinement conscient ? Partiellement conscient ? Dieu le lui avait-il révélé ? Était-il motivé par cette perspective ou bien désirait-il simplement revoir son petit frère ? Nous ne pouvons bien évidemment qu'émettre des hypothèses. Mais ce que nous constatons, c'est que Joseph éprouve ses frères. Il les teste. Le texte parle d'épreuve au verset 15 et 16. Il les pousse dans leur retranchement et il les fait jeter en prison. Un des frères ira chercher Benjamin et les autres resteront en prison jusqu'à ce que le petit frère soit venu et qu'il soit évident qu'ils avaient dit la vérité, que leur parole ainsi aura été éprouvée, verset 16. Mais après trois jours d'emprisonnement, Joseph a changé d'avis. Un seul des frères restera pendant que les 9 autres iront chercher Benjamin. Il fallait être nombreux pour ramener toutes ces provisions en Canaan. C'est peut-être là la raison. Le texte semble l'indiquer. Et Joseph désigne Siméon, au verset 24, comme celui qui va rester en prison sans donner aucune explication. Mais alors que tout ça est en train de se mettre en place, il se passe quelque chose d'incroyable dans notre texte. la conscience endormie des frères de Joseph s'éveille. Et ils se mettent à se souvenir de ce qu'ils ont fait à Joseph. Ils s'en souviennent et ils ont des remords, versets 21 et 22, tout en se disant l'un à l'autre, vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. Ruben leur dit, ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant son sang nous est réclamé. Ces 3 jours de prison et l'action de Dieu dans leur cœur ont réussi à faire ce que toutes ces années n'avaient pas réussi, ce que les cris de Joseph dans la citerne n'avaient pas réussi à faire, ce que les larmes de Jacob en apprenant la disparition de Joseph n'avaient pas réussi à faire. Et les voilà qui reconnaissent qu'ils ont eu tort d'agir comme ils l'ont fait. Les voilà qui semblent enfin prendre la mesure de la détresse et des supplications de Joseph. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les frères de Joseph comprennent ce qui leur arrive comme la conséquence, la juste rétribution de leurs actes infâmes envers Joseph. Ils comprennent que parce qu'ils leur ont fait subir la détresse, ils doivent maintenant à leur tour être dans la détresse. Il y a un jeu de mots en hébreu dans le verset qui en parle et qui rend cela évident. Ils font un lien de cause à effet entre les deux. Et pour eux, ce qui leur arrive est à l'évidence l'action de Dieu. Dieu est en train de les punir. Dieu est en train de réclamer le sang de Joseph. C'est ce que Ruben dit au verset 22. Et c'est ce que les frères vont dire. Nous l'avons lu, quand ils découvrent l'argent dans leur sac de blé après leur départ, et ça témoigne leur même compréhension des choses. Alors le cœur leur manqua, ils se mirent à trembler, se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Ils sont convaincus que Dieu est après eux, en train de les punir pour ce qu'ils ont fait. Quand Joseph entend ses frères parler ainsi, c'en est trop pour lui. Il est obligé de sortir pour pleurer. Il a bien évidemment tout entendu, il a bien évidemment tout compris. Ses frères ont parlé librement en hébreu devant lui, pensant qu'il ne comprenait rien, sans doute même pas conscient de sa présence à ce moment-là. Mais lui comprenait tout. Et Joseph doit sortir pour ne pas pleurer devant ses frères et ne pas vendre la mèche. Un mot sur cette idée de rétribution. Est-il vrai que nous devons tôt ou tard, ici-bas, payer pour nos fautes, payer pour le mal que l'on a fait? Est-ce ainsi que les choses se passent? Est-ce ainsi que Dieu agit? Ce serait systématiquement le cas si nous vivions dans un monde où règne la justice. Mais la réalité est tout autre. C'est pour l'heure l'injustice qui règne dans notre monde déchu. Le monde où la justice régnera est l'objet de notre espérance. Il est l'objet des promesses de Dieu. Ce monde est à venir. C'est la raison pour laquelle il arrive ici-bas que les justes, entre guillemets, souffrent des injustices et que le méchant prospère. Ici-bas, il arrive que ce soit les terroristes qui triomphent et les innocents qui succombent. Ici-bas, ce sont parfois les méchants qui gagnent et les gentils qui perdent. Et cette injustice, qui n'est pas nouvelle, fait à plusieurs reprises l'objet des interrogations et même de l'indignation des psalmistes. Alors est-il vrai que justice est toujours faite ici-bas? La réponse est non. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Dieu jugera le monde et Dieu jugera les hommes. Un jour, justice sera faite. Il y a un jour à venir dans le calendrier de Dieu que la Bible appelle le jour du jugement où tous les humains devront rendre des comptes à Dieu. Ce jour-là, les enfants de Dieu seront au bénéfice de la grâce qu'ils auront acceptée ici-bas. Et la Bible nous dit qu'ils ne passeront pas en jugement, parce que, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais, pour terminer, reparler de l'attitude de Joseph. Nous avons dit que ce n'est pas de la vengeance. Pourtant, il aurait eu de bonnes raisons, humainement parlant, de leur en vouloir. Peut-être leur en a-t-il voulu. C'est assez normal, après tout. Peut-être a-t-il dû faire un cheminement, lui aussi. Il s'en est passé des années. Et le Joseph de 40 ans n'est sans doute pas celui de 20 ans, de 25 ans. Il a cheminé lui aussi. Quoi qu'il en soit, nous, ce que nous constatons, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, Joseph est prêt à tourner la page. Avec des garanties, certes, c'est ce que nous avons vu, mais il est prêt à tourner la page. Nous avons vu au commencement par le nom du premier fils de Joseph, Manassé, que celui-ci, que Joseph était conscient que Dieu l'avait aidé à oublier. Et nous avons dit, encore fallait-il que Joseph le veuille lui aussi. Parce que rien dans ce domaine ne se fait sans que nous le voulions, sans que nous y travaillions, sans que nous le choisissions. Je crois que nous sommes tous à un moment ou à un autre dans notre vie, dans une situation similaire. Une situation où nous avons le choix ou pas de tourner la page. Une situation peut-être où Dieu nous a aidés à tourner la page, en permettant des circonstances favorables, par exemple. Alors bien sûr, il y a des étapes à respecter, des choses à faire quand il y a eu offense, par exemple. La Bible a des choses à dire là-dessus. Ça sera pour une autre fois. En tout cas, il ne s'agit pas de mettre la repentance ou le pardon au rang des formalités. Ce n'est jamais une formalité quand il y a eu vraiment offense. La vraie question pour nous est finalement toujours celle de notre volonté. Voulons-nous tourner la page là où elle a besoin d'être tournée dans notre vie? Est-ce que je veux tourner la page là où elle a besoin d'être tournée? Est-ce que je veux mettre tout en œuvre, toute mon énergie au service de cette résolution? Ou bien suis-je de ceux qui tiennent des comptes, des ardoises, de ceux qui ont des listes noires, de ceux qui gardent rancune, de ceux qui n'oublient jamais, même quand Dieu nous a fait oublier, même quand Dieu nous a donné un ou plusieurs Manassés dans notre vie? Est-ce que je suis de ceux qui ressassent sans arrêt ce qu'il ferait mieux d'oublier? Est-ce que je suis de ceux qui vivent dans l'attente de pouvoir prendre sa revanche? Est-ce que je suis de ceux qui n'oublient jamais le mal qui leur a été fait? Sans parler de ce que de l'autre doit faire, et c'est important aussi, il y a ce que je dois faire. Il y a toujours ma part à faire. Chers amis, quels sont les sentiments que nous chérissons dans notre cœur? Quels sont les sentiments que nous nourrissons dans notre cœur? Vous le savez comme moi, c'est ce que je nourris qui devient fort. Ce que j'affame finit par être sans force. Si je nourris la rancune, le ressentiment et la haine, alors ce sont ces choses qui seront fortes en moi et qui me domineront. Si je nourris le désir d'obéir à Dieu, le désir de faire sa volonté, le désir de pardon, de repentance, de paix, alors ce sont ces choses qui seront fortes en moi et qui domineront ma vie. Et alors je pourrai, avec l'aide de Dieu et par sa grâce, cheminer vers le pardon ou la repentance, cheminer vers la paix, cheminer vers la réconciliation, cheminer pour tourner les pages de ma vie qui doivent être tournées. Et le Seigneur veut nous aider dans ce sens. Il peut nous donner non seulement des manacées, et il le fait, mais il peut faire encore plus que cela. L'apôtre Paul dit qu'il peut nous donner le vouloir et le faire quand nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Là où nous avons du mal à avancer, là où nous avons du mal à pardonner, là où nous avons du mal à tourner la page, Dieu veut réaliser cela dans notre cœur. Que le Seigneur nous aide chacun dans ce domaine. C'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. Cette liberté dont nous parlons n'est pas la seule. C'est d'abord, bien évidemment, la liberté vis-à-vis du péché. Mais cette liberté-là en fait partie. Et si le Fils nous affranchit, alors nous sommes réellement libres. Libres de tout ce qui nous enchaîne. La rancune, le ressentiment, la haine fait partie de ces chaînes terribles qui peuvent enfermer une vie. Libre même de tourner les pages les plus difficiles et les plus douloureuses de notre vie avec l'aide du Seigneur, à l'instar de ce que Joseph est en train de faire dans notre texte. Et nous verrons la suite dimanche prochain. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.